Que le Seigneur soit béni. Je vous propose que nous puissions introduire ces moments par un texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 21. Un texte qui est étonnant, comme parfois il peut y en avoir dans la parole de Dieu, puisqu'il nous parle d'un esclave hébreu. Et il est dit la chose suivante. « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la septième, il sortira libre sans rien payer. » S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait avec lui une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Le Dieu que je sers cautionne l'esclavage. Ça va ? On n'est pas d'accord. Pourtant, quand on lit ce texte, il peut paraître relativement étonnant, même s'il est l'Ancien Testament, même s'il envoie des références bien particulières. Il est étonnant, et ce qui va être encore plus étonnant, c'est qu'au travers de ce passage, nous allons voir 4 marqueurs de la grâce. Parce que nous le savons, la Bible est christocentrique. C'est-à-dire que chaque verset, chaque passage a pour but de nous parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La Bible est beaucoup de choses, mais elle est avant toute chose un livre d'amour, un roman d'amour qui nous parle de l'amour d'un Dieu pour sa créature, qui te parle de l'amour de Dieu pour toi. Le but de la Bible est de te montrer que le Dieu créateur, que le Dieu qui a fondé l'univers avant même que tu naisses, il t'aimait et il t'a aimé au point d'offrir son Fils unique sur le bois de la croix. Et ça, c'est une réalité. Et ce texte, ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire qu'il nous parle de l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes. Et j'aimerais le voir en reposant le contexte. En fait, ici, il ne nous est pas fait mention d'un homme qui a été pris dans un autre peuple pour devenir esclave. D'accord ? Ce n'est pas du tout le principe, notamment, que l'on peut voir avec la petite servante de Naaman. Mais ici, il est fait mention d'un esclave hébreu. Et cet homme, il est devenu esclave tout simplement parce qu'il a eu, ce qu'on appelle des accidents de la vie. À un moment donné, il a contracté une dette. Il a contracté une dette vis-à-vis d'un autre hébreu. Et dans la loi, il a été instauré cette règle, parce que visiblement, c'était quelque chose qui devait être suffisamment courant pour que Moïse légifère là-dessus. Et Dieu a instauré des règles. Et c'est ces règles que nous allons voir ce matin. Et la première chose, c'est que finalement, on nous présente un Dieu qui répare les accidents de la vie. Pourquoi cet homme, cet hébreu, était-il devenu esclave ? Qu'avait-il commis ? Que s'était-il passé dans sa vie pour qu'il en soit réduit à finalement être esclave d'un autre hébreu ? On ne le sait pas. Peut-être qu'à un moment donné, il avait contracté des prêts à la consommation et qu'il a été incapable de les rembourser. Je transpose à notre actualité, on est bien d'accord. Peut-être qu'à un moment donné, son passé est revenu à la surface et qu'il est tombé dans certaines addictions et qu'il est devenu accro à l'alcool, accro à la meth, accro à la drogue, accro aux médicaments et que cela lui a fait perdre son travail et qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Peut-être qu'il a eu un accident de voiture et que sa santé en a pâti. Peut-être qu'il est tombé dans une dépression profonde. Mais à un moment donné, cet homme a connu un accident de la vie qui l'a poussé à devenir esclave et à devoir rembourser une partie de sa dette. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a une règle, c'est que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et nous pouvons tous, et je crois que nous avons tous vécu des accidents de la vie, ou alors nous pourrons tous en vivre. Nous pourrons vivre des accidents de la vie qui sont de notre fait, parce que nous faisons des mauvais choix. Et nous le verrons tout à l'heure, il y a cette notion de responsabilité. Mais nous pouvons vivre des accidents de la vie également qui ne sont pas de notre fait. Parce que nous le savons, la vie est rendue injuste par le péché. Parce que nous vivons dans un monde qui est injuste, entouré d'hommes et de femmes qui sont injustes, et que parfois nous-mêmes, nous pouvons être injustes. Les accidents de la vie frappent tout le monde. sans même qu'on ne le sache. Perdre un enfant, grandir dans une famille dysfonctionnelle, grandir avec des personnes toxiques qui, à un moment, impactent notre vie. On n'a rien demandé, et pourtant on le vit. Mais voyez-vous, moi je connais le Dieu qui répare les accidents de la vie. Et c'est ce Dieu-là que je veux vous présenter. Cet homme, ce passage, nous explique que même si Dieu répare les accidents de la vie, tout de même, il y a cette notion de responsabilité. C'est-à-dire que on peut imaginer que Dieu puisse dire « Eh, ça arrive, quoi !» et efface l'ardoise de suite. C'est ce qui se passe dans les cieux lorsque l'on se convertit. C'est-à-dire que vous comme moi, eh bien, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, il se passe un truc, c'est que nous sommes couverts du sang de Jésus et que quand Dieu nous regarde, il ne voit plus notre passé, il ne voit plus nos fautes, mais il voit l'œuvre du Christ. Nous sommes revêtus du vêtement de la justice qui est en Jésus. Cependant, eh bien, il y a une seconde réalité, c'est que sur terre, eh bien, parfois nos actes ont des conséquences et que nous avons vocation à les assumer. Je prends ma voiture, j'écrase le frère Jean. Ça pourrait être ma belle-mère. Que se passera-t-il? Si je me repens sincèrement, pardonnera mon crime. Il n'en reste pas moins que je devrais assumer mon acte sur la terre en allant quelques mois et quelques années en prison. Tout simplement parce qu'il y a ce principe de responsabilité qui a là. Et donc, vous le comprenez, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de ce qui se passe dans le ciel où nous sommes pleinement pardonnés de tous nos péchés. Et puis, il y a la dimension sur cette terre où finalement nous sommes responsables de nos choix et responsables de nos mauvais choix. Le péché a des conséquences. Et nos mauvais choix ont des conséquences. Ok ? Ça marche là-dessus ? Et cet homme, cet esclave hébreu, cet homme qui était devenu esclave, finalement, à un moment donné, il avait fait des choix de vie qui ont été mauvais, et Dieu lui dit « Ok, il faut que tu sois responsable de ce que tu as commis. » Peut-être que je m'adresse à quelqu'un et tu dis que ce que je vis est injuste, et il y a de la colère contre Dieu. Dieu te dit la chose suivante, te dit hey, « Je vais m'occuper de ton mauvais choix. Je vais m'occuper de ta mauvaise décision. » Mais sache bien une chose, c'est que pour que je m'en occupe, il est nécessaire que tu prennes conscience que la situation dans laquelle tu te trouves est avant tout une conséquence de ton péché et de ton attitude. C'est ce qu'on appelle la repentance, ou le début de la repentance. Ce qu'on remarque dans ce texte, c'est que, oui, Dieu veut que cet homme, cet esclave hébreu, soit responsable de ses actes, mais c'est borné dans le temps. C'est-à-dire qu'il sera esclave 6 ans, mais la 7e, il pourra repartir libre. Quel que soit le montant de sa dette. C'est-à-dire que sa dette pourra être d'1 million d'euros, pourra être de 100 millions d'euros, sa dette pourra être irremboursable, au bout de la 6e année, à la fin de la 6e année, alors il pourra repartir libre. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait toujours une fin à notre galère. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait toujours un horizon pour nous. Et ça, c'est une réalité que tu dois graver dans ton cœur. C'est-à-dire que quels que soient les choix qui auront été faits dans ta vie, quels que soient les accidents de ta vie, quels que soient les moments compliqués, quelle que soit la noirceur de ta situation, il y aura une 7e année pour toi, c'est-à-dire un moment eh bien, où tu pourras sortir de cette galère, parce que Dieu est le Dieu qui répare les accidents de la vie et qui met un terme à nos années compliquées. Cet homme, quel que soit ce qu'il a commis, eh bien, Dieu lui ménagera un moyen d'en sortir. Ça sera exactement la même chose pour toi. Je me souviens de cet homme, j'étais à Nantes. L'église avait ouvert une petite cellule de maison dans un petit bled paumé. avec un dans la maison d'un homme qui s'est d'un couple qui s'était converti. Et là, cet homme, il était animé d'un zèle pour l'évangélisation et il invitait tous ceux et toutes celles qui étaient dans ses connaissances. Et je me suis retrouvé dans cette réunion avec un jeune homme qui s'appelle Stéphane. Et ce jeune homme se convertit. Et puis, une réunion, deux réunions, trois réunions, un mois, deux mois. Et puis, à un moment donné, bien, on fait un rendez-vous, un énième rendez-vous. Et il me dit, Olivier, je peux te demander quelque chose ? Je dis oui. Il me dit, je suis recherché par la police. J'ai braqué le bureau de tabac. J'ai volé le bureau de tabac du village. Qu'est-ce que je dois faire ? Va te livrer. Tu ne pourras rien reconstruire, ni avec Dieu, ni toi-même, tant que tu seras en fuite. Il dormait dans sa voiture, mangeait ce qu'il pouvait trouver, etc. Il n'était pas forcément malheureux comme ça, parce qu'il avait une mentalité un petit peu de bohème. Mais il avait cette volonté de dire, vraiment cette volonté de plaire à Dieu. Alors, il a pris son courage à deux mains. Il s'est présenté à la gendarmerie. Il a dit, bonjour, je m'appelle Stéphane X. Je suis recherché. Le gendarme a dit oui, effectivement, vous êtes recherché. Ils l'ont mis dans une pièce. Les faits étaient caractérisés. Ils ont appelé le procureur de manière à ce que soit mis en examen et qu'une procédure commence. Et là, dans sa pièce, Stéphane était en train de prier. Non, Seigneur, je veux te plaire. Les gendarmes sont rentrés. Ils lui ont dit, monsieur, vous pouvez sortir. Aucune poursuite ne sera engagée contre vous. Pourquoi ? On ne sait pas. Il est reparti libre. Voyez-vous ? Ton Dieu est le Dieu qui prendra soin des accidents de ta vie, quels qu'ils soient. Et tout est borné avec Dieu. Tout est calibré avec Dieu. Même ton épreuve, même tes erreurs, même tes échecs, même l'injustice. La deuxième chose, c'est que finalement, Dieu, la grâce nous laisse libre. Cet homme, quand on relit le texte, au bout de la septième année, il avait la possibilité de quitter la maison de son maître. Devant lui s'offrait un choix. Tu as vécu 6 ans dans la maison de ton maître, tu as été esclave pendant 6 ans, et là, maintenant, au bout de 7 ans, tu as un choix. C'est-à-dire que tu peux revenir dans ta vie d'avant. Qu'est-ce que j'aime ça ? De me dire que mon Dieu ne fait pas de moi un robot. Mais que mon Dieu est le Dieu qui me donne le choix, en fait. Je ne suis pas télécommandé par le Saint-Esprit qui vit en moi. Mais je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Mais j'ai le choix d'obéir ou non au Saint-Esprit. J'ai le choix, eh bien, de lui permettre de faire grandir le fruit de l'esprit ou alors, moi, de cultiver le fruit de la chair. J'ai le choix. J'ai le choix de dire à Dieu, « Eh oh, c'est bien !» Eh bien, je choisis de suivre ou j'ai le choix de lui dire, je choisis de faire ma vie. Je suis libre de le faire, de faire ce choix-là. Tout simplement parce que la liberté, l'amour, pardon, a comme corollaire la liberté. Comment est-ce que je pourrais dire à Dieu, je t'aime, alors que je ne suis pas libre de lui dire, je ne t'aime plus ? Est-ce que votre lave-vaisselle vous dit, je t'aime ? Non. Tout simplement parce que votre lave-vaisselle, il n'a pas le choix. Quand vous appuyez sur le bouton « on », il se met en route. Enfin, règle générale. OK ? Il en va de même de votre machine à laver, il en va de même de votre voiture, parce que elles n'ont pas le choix. Elles sont animées par un mécanisme, par une mécanique qui fait en sorte que, finalement, elles ne peuvent pas changer. Vous, vous avez le choix de dire oui ou non à Dieu. Ce qui veut dire que vous êtes différent de votre lave-vaisselle et que vous pouvez aimer. On est OK avec ça ? Et cet homme, il pouvait quitter la foi. Il pouvait quitter la maison de son maître. Simplement, les conséquences étaient écrites dans le contrat. Tu quitteras la maison de ton maître comme tu y es entré. Si tu n'avais pas de femme, eh bien, tu repartiras sans femme, même si tu t'es marié durant ce temps-là. Si tu avais une femme, tu repartiras avec elle, mais si tu as eu des enfants, tu resteras. Tes enfants resteront et toi, tu repartiras. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on est tout à fait libre de dire à Dieu, je reprends mon ancienne vie. Simplement, en reprenant notre ancienne vie, on laisse le fruit de l'esprit. Et notre vieille nature reprendra alors, eh bien, toute son influence et tout son poids dans notre vie. Ce qui fait la nature de notre relation, la nature de la force de notre vie chrétienne, c'est quoi ? C'est la qualité de notre relation avec Dieu. Nos actes dépendent de notre relation. Notre foi dépend de notre relation. Ce que l'on entend, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Notre mentalité, nos pensées, nos raisonnements dépendent de notre relation avec Dieu. À partir du moment où cette relation est coupée, alors le sarment que je suis ne peut plus porter de fruits. C'est juste, là encore, mécanique. Cet homme pouvait dire, je repars, je retourne là où ma vie s'était arrêtée. Simplement, il repartait sans les bénédictions acquises. Dis que c'est ton dernier culte. C'est la dernière fois que tu mets les pieds dans l'église. Tu as été blessé par les paroles d'un frère, d'une sœur. Pour toi, ton esprit, c'est rideau. Si c'est ça l'église, j'ai pas vocation à y être. Si c'est ça la foi, j'ai pas vocation à y être. Tu peux faire ce choix. Tu es libre de dire à Dieu, je retourne dans mon ancienne vie. Mais c'est ce qui va se passer. Tu redeviendras la personne que tu détestais. Quand je suis de mauvais poil, vous savez ce que me dit ma femme ? C'est un petit bout de fan, une petite blonde là. Elle me regarde et puis elle me dit, va prier. Parce qu'elle sait très bien que sans Dieu, je suis le pire des maris. Mais qu'avec Dieu, je ne suis pas le meilleur, mais ça passe quoi. Aujourd'hui, il y a tes blessures qui sont là. Mais dis-toi bien que demain, tes blessures seront toujours là. Mais que tu n'auras plus la sève du cep qui te permettra d'éviter que ces blessures conditionnent des actes qui te feront honte. Ça marche ? Troisième point. La foi, c'est pas un truc magique, mais la foi, c'est un choix. Souvent dans notre conception chrétienne, et la manière dont nous on le prêche, pasteur, je pense, enfin moi, parce que les autres le font certainement beaucoup mieux que moi, on a l'impression que c'est un truc un peu magique qui nous tombe dessus. On se lève le matin en disant « Oh, j'ai eu la foi !» La réalité est tout autre. c'est que ce texte montre très bien que la foi, en fait, c'est un processus. C'est un chemin. Que la foi, ce n'est pas une conviction suivie d'une démonstration, parce que je connais Hébreux 11, hein, d'accord ? Mais qu'avant qu'il y ait cette conviction qui va permettre la démonstration, il y a un processus et il y a un chemin. Cet homme, au bout de 7 ans, il va pouvoir dire à son maître, « Ok, en fait, mon ancienne vie, j'en veux pas. Mais je vais rester dans ta maison et je vais y rester pour toujours. » What ? Tu as le choix entre la liberté et continuer à être, entre guillemets, esclave, et tu choisis d'être esclave ? Ça va pas dans ta tête ? Pourquoi est-ce que tu fais un truc pareil ? Pourquoi au 21e siècle, tu choisis d'être chrétien, en fait ? Ça va pas dans ta tête ? T'es jeune, t'es plutôt beau gosse, ok ? Je me lâche un peu, pardon, excusez-moi, je suis un peu bizarre comme pasteur, mais vous ne direz pas votre pasteur, d'accord ? Voilà, t'es plutôt beau gosse, mais t'es pas bien, pourquoi t'as choisi d'être chrétien, en fait ? T'es bizarre comme mec ! J'aurais pu dire pareil à la dame devant, hein, d'accord ? Voilà. Mais la réalité, c'est que si on l'a fait, c'est parce qu'on a vécu un processus, on a vécu un chemin. Ce chemin, il est unique. Et cet homme-là, pendant 6 ans, il a appris à aimer son maître. Au début, ça a dû être dur. Passer d'un état d'homme libre à un état d'esclave, avec toute la culpabilité qui va derrière, avec tout le regret qui va derrière. Ça a dû être compliqué. Et puis petit à petit, il y a une relation qui s'est tissée entre lui et son maître. Et j'ai presque envie de dire qu'au bout de 6 ans, il n'est plus esclave, mais il est devenu ami. Il n'est plus dans une relation où il sert, mais il est dans une relation où il devient ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Il a appris. Il a fait des expériences. Il a compris que son maître était bon. Il a compris que son maître le traitait bien. Il a compris que son maître l'aimait. Il a compris que son maître le mettait en sécurité. Il a compris que le maître le protégeait peut-être même de sa folie et de ses passions et de ses pulsions. Il a compris que son maître était sa sécurité. Il a compris que s'il quittait la maison de son maître, eh bien, ce qui s'était produit dans le passé se reproduirait parce qu'il était animé de choses plus fortes que lui et que seul le fait d'être dans les maisons du maître le protégeait. Alors, il s'est dit, parce que j'ai expérimenté que mon maître était bon, je vais rester. Mais on n'est pas uniquement sur une relation, sur une décision basée sur la peur de redevenir ce que l'on était, mais on est sur une relation qui est basée sur l'amour. Remarquez dans le texte ce qui est marqué. Il est dit, j'aime mon maître. Au cours de ce parcours, il n'est pas simplement animé par la peur de redevenir un pécheur, mais il a découvert et il a appris qu'il était aimé et il a appris à aimer son maître. Et ça change tout. L'amour est le fondement de notre relation avec Dieu. Et c'est ce que cet homme-là a appris. Et je crois que si nous voulons renforcer notre communion et notre relation avec Dieu, nous avons juste besoin d'accepter d'être aimé de Dieu. Et ça, c'est hyper compliqué. C'est dur de se sentir aimé, d'accepter que l'on est aimé. Bon, quand on a un beau gosse comme toi, c'est normal, c'est facile, c'est plus facile que les autres. Mais c'est vachement compliqué. quand pour X ou Y raison, nos parents ne l'ont pas appris, ça ne s'invente pas, quoi. Et quand on lit qu'il faut comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est pas pour rien que Paul dira « je prie pour que ». Parce que je pense qu'il y a un petit peu de miracle et qu'il y a un petit peu de surnaturel derrière tout ça. C'est compliqué de me sonoriser. Ouais. Apprends à être aimé et apprends à aimer Dieu. Que ce soit l'objet de tes prières, en fait. Et tu n'auras plus envie de quitter la maison du Père. Et puis, il va poser des priorités claires. Il dira, je choisis de rester esclave. Allez, le mot vous dérange. Je choisis de rester serviteur. OK. Parce que, premièrement, j'aime mon maître. Deuxièmement, j'aime ma femme. Troisièmement, j'aime mes enfants. C'est-à-dire que s'il le fait, ce n'est pas pour les bénédictions qu'il a reçues dans la maison du maître, mais s'il le fait, c'est parce qu'il a appris à connaître la relation. Il ne reste pas pour ce que Dieu lui a donné, mais il reste pour qui est Dieu. Parce que demain, pour X ou Y raison, les bénédictions peuvent cesser. Temporairement. On ne sait pas pourquoi. On n'est pas Dieu. On peut enchaîner une vague de galères. Pourquoi ? On ne sait pas. On n'est pas Dieu. Notre prospérité peut décliner. Notre santé peut être touchée. Pourquoi ? On n'est pas Dieu et puis peut-être qu'on vieillit un peu aussi. C'est comme ça. Et si je suis attaché à ce que j'ai reçu dans la maison du Père, plus qu'au Père lui-même, alors quelque part, je suis toujours un petit peu en danger. J'aime mon maître. Et j'aime les bénédictions qu'il m'a données. Mais premièrement, j'aime mon maître. La foi, c'est un choix. Je me souviens de cet homme, ce jeune homme. Un jour, il y a un jeune couple qui arrive à l'église. Et puis, elle a été convertie, le mari était inconverti. Mais il venait de temps en temps. Elle était fille d'un missionnaire américain et vraiment bien engagée, une femme au poil. Et puis le gars, vraiment intéressant, on jouait au foot ensemble, enfin bon bref, on avait des relations hyper amicales. Et puis, mais on parlait pas du tout de la foi. Et puis un jour, après une partie de foot, il me dit « Je peux te voir dans ton bureau ?» Je dis « Ouais ». Il s'assoit en face de moi et puis il me dit « Voilà, je voudrais me faire baptiser. » Et là, moi, homme de peu de foi, j'écarquille les yeux parce qu'il n'avait pas du tout le profil du mec converti. Hein. Il n'y avait rien qui avait changé dans son attitude, etc. Il n'avait rien vu, moi. Puis je lui dis « Mais pourquoi ?» Et là, il m'a donné l'une des plus belles leçons que l'on m'ait données dans mon ministère. Il m'a dit « Parce que j'ai choisi de croire. » Et tout d'un coup, dans ma petite tête, j'ai compris que, en fait, la foi, ce n'était pas une émotion, ce n'était pas un sentiment, mais c'était une décision. Et je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, parce que je t'ai vu vivre, parce que je vois vivre ma femme, parce que je vois vivre mes beaux-parents, parce que je vois vivre l'Église, parce que je trouve que les choses sont cohérentes, parce que je trouve qu'il y a une logique dans ce qui est annoncé. À aucun moment, il ne me parle de sentiments, à aucun moment, il ne me parle d'émotions. À aucun moment, il ne me fait une démarche mystique. Mais il me dit juste, j'ai choisi de croire parce que le parcours de vie et ce que je voyais étaient cohérents. La foi, c'est un choix. Si tu attends de ressentir des choses, ça peut se produire. Je suis très kinesthésique comme garçon. Mais il y a des profils qui le sont beaucoup moins que moi et sur lesquels, eh bien, la foi est juste un choix. Choisis simplement de croire. Et cet homme, et je vous parle de ça il y a quasiment 15 ans, il est toujours engagé dans son église, il sert, etc., il s'épanouit. Il est toujours aussi rocailleux, aussi dur en apparence, mais pour autant, sa foi est solide et bien installée, c'est carré. Voilà. Il y a eu une expérience, il y a eu un chemin de vie. Puis quatrième chose, et c'est presque la conclusion. Sachez que les pasteurs mentent quand ils disent ça. Ok ? Je sais pas si Jean-Marc le fait, mais enfin, la plupart le font. Ce choix, il est scellé. Il se passe quoi ? Septième année, le gars, il dit « Ok, j'aime mon maître, je veux le suivre, pas simplement pour un CDD de 6 mois, de 6 ans, mais pour toujours. » Ok ? Comme le mariage, pareil. La corde au cou. Ça va, messieurs ? Ça vous parle ? Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, on se comprend. Et, oh là, elle m'a jeté un mot, un regard, oh là là, oh, je vais avoir des problèmes à la fin du culte, je pense. Oui, c'est vous que je parle, oui, effectivement, vous pouvez vous tourner derrière, c'est vous. Et donc, il va décider, il va dire, ok, j'aime mon maître. Et donc, le choix va être scellé. Mais il va l'être en public. C'est-à-dire que le texte vous dit qu'on va l'emmener à la porte de la propriété. Et les commentateurs expliquent que ça sera plus probablement à la porte de la ville, mais que dans les deux cas, eh bien, il y aura des témoins et que l'engagement de l'esclave hébreu à rester esclave pour toujours sera scellé dans un registre. Et que ce choix sera, j'allais dire, presque irrévocable. C'est une décision qui est légale, c'est une décision qui est juridique. C'est écrit. Alors là, si j'avais le temps, je pourrais faire plein d'analogies, le livre de vie, etc. Le fait que l'acte de condamnation a été déchiré, qu'on rentre dans une nouvelle dimension. Mais j'ai pas le temps. Sinon, vous allez me virer. Et donc, ça fait forcément référence à un truc qui s'appelle le baptême, quoi. À un moment donné, l'engagement que j'ai pris dans mon cœur, l'expérience que j'ai fait dans mon cœur avec Dieu, clac, ça aboutit à un engagement public qui s'appelle le baptême. On monte sur une estrade et puis on explique en quelques mots eh bien, quelle a été notre expérience, quel a été notre chemin. Hop, on se retrouve plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et il y a un truc qui est scellé publiquement dans le cœur de Dieu. À tel point qu'il y a même des anges qui se réjouissent. Okay ? Donc, à un moment donné, l'expérience a vocation à devenir publique. Deuxième chose, c'est que c'est un engagement qui est visible. On fait quoi ? On fait un truc un peu barbare. On prend son oreille, on met un coup de poinçon dedans et il est... C'est troué. Vous savez quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a une alliance ? C'est pour se rappeler du fait que l'on est marié, mais au-delà du fait que l'on est marié, se rappeler pourquoi nous nous sommes mariés. Parce que, bon, elle n'est pas là, je peux le dire. Parfois, elle est un peu pénible, quoi. Parfois, elle ressemble un peu à sa mère. Et donc, dans ces cas-là, je regarde mon alliance, non pas pour dire, oh la vache, quelle galère, mais pour me dire, en fait, si je l'ai épousée, c'est pour telle raison. C'est parce que c'est la plus belle, c'est parce que c'est la plus intelligente, c'est parce que c'est ci, parce que c'est ça, parce que c'est ça. En regardant mon alliance, je ne me souviens pas que je suis marié, mais je me rappelle de pourquoi je me suis marié. Et donc, ça passe. L'esclave hébreu, lorsque il sera contrarié, parce qu'il n'est que serviteur, il n'est pas maître, et on a tous envie d'être maître et pas serviteur. C'est la racine du péché, entre nous soit dit. Quand il rentrera le soir et que dans son miroir cuivré, parce qu'à l'époque les miroirs étaient cuivrés, qu'il sera en colère contre son maître, il verra le trou qu'il y a dans son oreille. Il ne se souviendra pas qu'il est esclave, mais il se souviendra pourquoi il a choisi de l'être. Le souvenir, c'est une arme qui est extrêmement forte. Être capable de se souvenir d'où est-ce qu'on vient, ce n'est pas pour rien que les patriarches, ils mettaient des autels partout où ils passaient, partout où ils avaient vécu des choses avec Dieu. C'était de manière à ce que lorsqu'ils y repassent, et alors, eh bien, ils puissent se souvenir de ce qu'ils avaient vécu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis toutes sortes de fêtes que l'on appelle religieuses. C'est de manière à ce que l'on puisse se souvenir de ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour rien que Jésus a instauré la Sainte Cène. C'est pour qu'on puisse se souvenir de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas pour rien que l'on se fait baptiser. C'est pour se souvenir de la raison pour laquelle on se fait baptiser. Et puis, troisième point, c'est que l'engagement, il est à renouveler. Pourquoi ? Mesdames, vous avez des trous dans les oreilles ? Il se passe quoi si jamais vous ne mettez plus de boucle d'oreille? Ça se rebouche. La marque disparaît. Mon engagement avec Dieu, c'est pareil. Si je ne le renouvelle pas, il n'est pas question de deuxième conversion, d'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je reste doctrinal. Mais si je ne le renouvelle pas dans mon cœur, alors, ça se rebouche. Et je n'ai plus une foi, mais j'ai une religion. Je viens tous les dimanches matin, je m'assois sur ma chaise, je fais la même louange, mais c'est rebouché. Ce qui signifie que on est peut-être appelé à certaines fois à vivre des deuxièmes Pâques. On est appelé à vivre des moments forts avec Dieu, où on se laisse poinçonner et où on dit à Dieu, je choisis de rester avec toi. Oui, c'est compliqué en ce moment. Oui, c'est difficile entre toi et moi. Oui, c'est difficile dans mon couple. Oui, c'est difficile dans ma situation. Mais mon Dieu, je refuse que les circonstances bouchent l'engagement que l'on a pris. Et je choisis une nouvelle fois, en conséquence, de rester ton serviteur. Je choisis de rester ton enfant. Je choisis de rester en toi. Et c'est un choix qui est conscient, qui est basé sur une expérience, qui est basé sur le fait qu'on a cheminé ensemble. Et je suis en train de ressentir que je suis en train de partir en vrille, que mon engagement est en train de baisser, que finalement ma foi est en train de s'étioler. Et j'ai besoin que tu me repoinçonnes l'oreille. J'ai besoin de me ressentir enfant de Dieu. J'ai besoin que notre engagement soit recélé. J'ai besoin qu'on fête notre anniversaire de mariage. J'ai besoin qu'on s'en souvienne. Parce que c'est important. Parce que là, je suis en train de devenir un religieux. Et j'ai oublié la relation. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux pendant quelques instants ? Et c'est peut-être l'opportunité pour toi de venir aux portes de la ville. Fais un petit moment que tu te balades là, d'expérience en expérience avec Dieu. C'est le moment d'entériner les choses avec lui et de lui dire, je veux maintenant être avec toi pour toujours. Tout simplement. Peut-être le moment pour toi, dire bon, allez, je vais le rendre public, cet engagement-là. Il y en a marre d'être disciple de Jésus en secret, comme Joseph d'Arimathée. Et allez, on va y aller, on va franchir le pas. Ou alors c'est peut-être le moment pour toi de dire à Dieu, bon, c'est dur. j'ai pris tellement de tornades sur la figure que le poinçon est en train de se refermer. Parle avec ton Dieu, simplement. C'est entre lui et toi. C'est dans ton cœur. Dans le silence, là. C'est toi et le Saint-Esprit. C'est toi et ton Dieu. C'est tout. Je te remercie, Seigneur, parce que on a tous nos chemins, tous nos routes, notre histoire, nos blessures, nos failles, notre complexité. Tous nos péchés cachés, tous des cadavres dans les placards. Et ta grâce est suffisante pour tout cela. Merci. Merci parce que tu n'es limité par rien. Tu es le Dieu supérieur à toutes nos erreurs, à toutes nos fautes. Ni plus ni moins. Je te prie pour des cœurs ce matin. Je te prie pour que l'onction enseigne, s'il te plaît. Je te prie pour que le Saint-Esprit marque des certitudes, des convictions. Je te prie, c'est mon Dieu, pour que des chemins, des parcours reprennent. Je te prie pour que des vies soient changées, transformées. Je te prie, c'est mon Dieu, pour que l'amour naisse. Je te prie pour que l'engagement naisse. Je te prie pour que la reconsécration, si mon Dieu, puisse être à l'ordre du jour. Saint-Esprit, tu passes au-delà des murs, tu passes au-delà des portes fermées et tu marques quelque chose de particulier dans un cœur et dans une vie, dans le nom de Jésus. Amen.